Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nous allons ouvrir deux passages dans notre Bible. Le premier dans l'Ancien Testament, livre du prophète Ésaïe. On va prendre une première et courte lecture. Ésaïe, chapitre 65, verset 2, et ensuite on passera au verset 12. Et on va illustrer tout cela avec un texte du Nouveau Testament dans l'Évangile de Luc. Alors commençons, Ésaïe, chapitre 65, verset 2. C'est Dieu qui parle, alors certainement à destination prioritairement du peuple d'Israël, mais je pense que ça vaut aussi pour nous aujourd'hui, où Dieu dit ceci: « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une mauvaise voie, au gré de ses pensées. » Et le verset 12, il est dit dans la deuxième partie, hein, « Car j'ai appelé, et vous n'avez point répondu. J'ai parlé, et vous n'avez point écouté. » Voilà, j'ai appelé, sans réponse, j'ai parlé, et vous n'avez pas prêté attention, on pourrait traduire de cette manière, à mon appel. Et puis la deuxième lecture qui va nous situer davantage, qui sera l'objet de notre commentaire, c'est dans Luc, je vous l'ai dit, chapitre 18 et verset 18. Alors c'est un texte qui est bien connu, hein, des lecteurs habituels de la Bible, de l'Évangile, mais je voudrais faire ressortir quelque chose de particulier à travers ce texte. On l'a commenté de bien des manières. Bien sûr, il y a toujours le message principal de ce texte, mais sortir quelque chose de spécial. Alors, un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà pour, en effet, cet entretien, cette rencontre de Jésus avec, ce chef. Dans d'autres passages, il nous est dit, c'est un jeune homme, une notoriété, nous pourrions dire, une notoriété à considérer certainement au titre même de sa richesse. Hein. Voilà, enfin, c'était un nanti. Et malgré qu'il était possédant, il avait certainement des besoins spirituels. Ça ne veut rien dire tout cela, dans ce sens que il y a des pauvres qui n'ont pas besoin de Dieu et puis qui se disent « moi je suis riche en Dieu ». Et puis il y a des riches qui se disent « eh bien j'ai quand même besoin de Dieu ». Maintenant, le dire c'est une chose, le vivre c'en est une autre. Et on va en avoir la confirmation à travers notre simple récit, parce que c'est un garçon qui vient d'une manière tellement pathétique. Il vient supplier Jésus, il accourt devant lui, il se met à genoux, il le supplie en disant « Tu sais, il faut que tu me donnes vraiment aujourd'hui une réponse parce que mon âme est malade, je voudrais au moins avoir cette réponse de ta part devant cette question qui me tourmente depuis si longtemps. Je peux être riche, je peux avoir ceci, je peux avoir cela, mais ça ne me rend pas heureux. » Et moi, je sais, je viens vers toi parce que tu as certainement quelque chose pour me rendre heureux. Alors, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Et avant de dire, alors, il va commencer à dire, eh bien voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et puis, beaucoup de choses semblables qui sont un regroupement de plusieurs récits qui se répartissent dans différents évangiles. Je suis en train de faire un survol. Alors, nous voyons que ce garçon va bien entendre ça. Et dans un autre passage, il dira, mais tu sais, depuis toujours, j'ai essayé de mettre en pratique la volonté de mon Dieu, le Dieu d'Israël. Voilà, je me suis efforcé, et puis j'ai toujours pas la réponse. C'est vrai que tu me dis qu'il faut observer les commandements de Dieu, de ne pas tuer. J'ai pas tué, ça c'est sûr. J'ai jamais menti, donc je n'ai pas rendu de faux témoignages. J'ai honoré mon père et ma mère, mais je m'aperçois que pourtant je suis allé au bout de tout ça. J'ai toujours le même problème au fond de moi-même. Je ne sais pas. Je suis toujours angoissé parce que je voudrais savoir, eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle. J'ai fait ça et j'ai pensé qu'avec ça, eh bien, j'aurais la réponse. Et malgré que j'ai fait tout ça, j'ai toujours encore ce vide à l'intérieur de moi-même. Et vous savez, les choses commencent à partir du verset 22, quand Jésus entend un petit peu l'étalage de ce que ce jeune homme a pu faire en disant, eh bien, oui, j'ai été élevé dans cette religion, dans notre religion, et puis je suis allé au bout de tout ça, et sans rien avoir en satisfaction. Alors Jésus va lui dire une chose qui va pas lui plaire. Vous savez que dans l'évangile, il y a des choses qui peuvent nous plaire, mais il y en a d'autres, ça nous dérange, parce que c'est vraiment pour nous. Et c'est parce que c'est pour nous, parce qu'autrement, si ça concerne les autres, ça n'a peu d'impact. Et il va lui dire, et pourtant ça paraît pas extraordinairement quelque chose d'insurmontable. C'est sûr que si Jésus avait dit ça à un pauvre, alors qu'il était riche, vends tout ce que tu as, il aurait pu dire, écoute, c'est avec ce que j'ai, ça va pas me gêner de tout laisser parce que je n'ai rien. Mais là, ça pose un problème. Il lui dit, mais tu sais, voilà, tu vends tout ce que tu as. Ça l'interpelle déjà. Et tu vends tout ce que tu as et tu vas le distribuer aux pauvres. Bon, ça pouvait être une compensation qui atténuait un petit peu l'injonction de Jésus de tout vendre. Si je me libère de tous mes biens, de tout ce qui me, voilà, tout ce qui fait ma fortune, au moins ça sera pas perdu, ça ira vers les pauvres. Mais c'était dans l'intention que ça puisse faire du bien à quelqu'un, naturellement, ce que Jésus disait. Et puis tu vas le distribuer aux pauvres, et Jésus va lui dire, et ça va le casser, tu auras un trésor dans le ciel. Alors, c'est quand même difficile parce que il avait un trésor sur la terre. Et on lui parle d'un trésor dans le ciel. C'est l'un contre l'autre. Et c'est là où vient vraiment la difficulté, l'hésitation et l'ambiguïté parce qu'il venait chercher une solution. Il a un problème supplémentaire maintenant. Voilà. Et quelquefois, justement, ça fait partie aussi du programme. Mais Dieu sait très bien ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Quelquefois, eh bien, il va nous répondre d'une manière tellement habile, subtile, spirituelle, que on va être un petit peu sonné au départ. Mais il faut comprendre la pensée de Jésus. Tu auras un trésor, finalement, dans le ciel. C'est que le problème de ce garçon, malgré toute sa bonne volonté, malgré ses actes de dévotion, son obéissance à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, et il avait tout fait comme il pouvait, comme on pourrait le faire au mieux. Mais là, il y a un choix à faire entre le ciel et la terre. Et c'est bien le problème. Un non-possédant ou quelqu'un qui serait sans aucune possibilité, c'est pas trop difficile. Il a rien, il regarde en haut et on lui dit qu'il y a un trésor. Il va y croire. Un trésor, une espérance, quelque chose. Ça, c'est l'histoire de Lazare, vous connaissez ? Le pauvre Lazare avec le riche, le mauvais riche, on l'a appelé comme ça dans la parabole. C'est toujours aussi dans l'évangile de Luc. Alors, c'est ça ce qui lui pose un énorme problème. Parce qu'il dit, écoutez, où il pouvait raisonner de cette manière, moi je veux bien un trésor dans le ciel, puisqu'il parlait de vie éternelle, ça tombe sous le sens. La vie éternelle, c'est là-haut, c'est pas en bas. Alors, ça pouvait être déjà une réponse. Mais faut-il bien la comprendre, cette réponse? Alors, il aurait pu dire, bah, écoute, Jésus, moi je suis prêt à t'écouter, je suis prêt à vraiment entendre toutes tes paroles et à faire encore peut-être ce que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Mais laisse-moi quand même, avant d'avoir mon trésor dans le ciel, laisse-moi avoir gardé mon trésor sur la terre. Mais le problème, c'est qu'il y avait un encombrement dans son cœur. Il n'y a pas deux choses qui peuvent rentrer en même temps. parce que les trésors de la terre sont tellement infinis offerts à la convoitise et à la gloutonnerie des hommes, qu'il ne peut pas y avoir d'association, il ne peut pas y avoir, comment pourrait-on dire, de compatibilité, si je peux m'exprimer ainsi, entre ces deux sortes de trésors, de ces catégories de trésors, parce que le cœur de l'homme n'est pas assez grand. C'est l'un ou l'autre. Soit il va falloir en vider un pour remplir avec l'autre, ou alors on va rester avec ce que l'on a, mais il nous manquera toujours la dimension. Ce garçon va faire cette découverte qu'il est devant un choix. Et ce choix, c'est très très difficile. Alors, Jésus va lui dire, eh bien, tu sais, franchement, il te manque l'essentiel. Quel est cet essentiel ? Quelle est cette chose principale qui va te permettre, en quelque sorte, sans regret, sans délai et sans aucun problème, d'évacuer ce qui est en trop et de te remplir de ce qui vraiment va faire ta vie, puisque tu es venu poser la question. Jésus répondait dans la question, que faut-il faire pour éviter, pour avoir la vie éternelle ? Eh bien, c'était ça. Et je crois que la grande difficulté des hommes, c'est de pouvoir finalement bien comprendre ces paroles. Et Jésus le dira dans le sermon sur la montagne, hein, un trésor sur terre, un trésor dans le ciel. Je voudrais vous dire quand même, pour amoindrir un peu la question, c'est que Dieu n'est pas contre que nous puissions avoir au moins les moyens d'existence sur la terre. Si nous lui demandons, comme il nous l'a appris, donne-nous notre pain quotidien, eh bien il va nous le donner. Le Seigneur ne fait pas des hommes qu'il appelle des pauvres, mais il en fait des riches. Mais il y a une prééminence dans les valeurs, c'est cela. Et je crois que notre brave homme, déchiré peut-être par ses questions spirituelles, parce qu'il vient, il se met au pied de Jésus, eh bien, avait du mal à faire le distinguo entre les buts et puis également les moyens. Et lui, il voulait tout garder. C'est ça la question, tout garder. Alors, c'est un petit peu ce qui s'est passé quand nous avons lu le premier texte. Israël a été un peuple béni. De toutes sortes de bénédictions, des bénédictions, parce qu'il faut bien considérer, quand Dieu l'a fait sortir d'Égypte, c'était pour aller dans le pays où coule le lait et le miel. Un pays riche, un pays fabuleux, un pays merveilleux. Donc, il s'est enrichi, Israël. D'esclave qu'il était, eh bien, il est devenu encore beaucoup plus riche. Et quand on est riche, il paraît qu'on y prend goût, hein. Je sais pas, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais, il y a un transfert de confiance. Parce que, quand on n'a rien, on peut toujours lever les yeux sur le ciel et prendre les paroles de Dieu et se nourrir de ces paroles qui nous font vivre. Voilà. Et Dieu saura nous bénir et nous donner tout ce qui nous est nécessaire. Mais quand on est riche, la question est beaucoup plus difficile à résoudre. Il faut savoir ouvrir les mains pour lâcher, finalement, eh bien, sur ce quoi nous comptons. Et à ce moment-là, il va y avoir une nouvelle aventure pour nous. Ou alors notre confiance que nous avons quand nous sommes pauvres, que nous transférons. Nous mettons notre confiance en Dieu, mais nous allons la transférer, nous allons la mettre dans les choses dans les espèces sonnantes et trébuchantes, dans les choses que nous connaissons et que nous tenons dans nos mains. Et venir à Dieu, c'est toujours ouvrir notre cœur, et secondement, c'est ouvrir nos mains. Et ouvrir nos mains, vous avez compris. Et quand je reviens à ce premier texte, Dieu dira du peuple d'Israël, il dira, mais c'est un peu l'image de ce jeune là dont nous parlons, le chef, hein. Dieu dira, mais j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Ils m'invoquent, ils m'ont construit un temple, ils viennent aux cérémonies, hein, ils ont là tout un cérémonial, ils ont toutes sortes de choses, mais c'est un peuple rebelle, et qui marche dans une voie mauvaise, selon ses pensées. Vous savez, tous ces Israélites qui montaient au temple de Jérusalem, et qui le montaient avec une bonne foi, avec certainement une bonne conscience, mais tout ça, mais Dieu en avait par-dessus la tête, excusez-moi, hein. C'est le chapitre premier du livre d'Ésaïe. Mais que vaut vos nouvelles lunes, vos fêtes, vos sabbats, etc., etc. Parce que finalement, il y avait une chose qui était absente, c'était le cœur, le don du cœur. Et Dieu ne cessera à travers les prophètes, comme il le dira dans le livre Jérémie, je cite pas le texte, mais bon, je l'ai vu il y a un instant, il dira, mais depuis le matin, dès l'aube, je vous ai envoyé mes prophètes, je vous ai envoyé des hommes de foi, je vous ai envoyé mes serviteurs, ils ont crié au milieu de votre pays, au milieu de votre peuple, de revenir à l'Éternel, de lui donner votre cœur. Mais vous ne les avez pas écoutés. Écoutez, car j'ai appelé, vous n'avez pas répondu, j'ai parlé, et vous n'avez pas écouté. C'est ça le texte que nous avons devant les yeux. Alors, tu auras un trésor dans le ciel, et Jésus d'ajouter aux oreilles de ce brave garçon, il nous est simplement dit, Eh bien, viens maintenant et suis-moi. Tu me suis pas comme tu avais peut-être pensé, mais tu me suis avec ton cœur et tu laisses tout le reste derrière. Il y en a qui ont relevé ce challenge. Moi, je pense à Matthieu Lévy, hein. Quand il était au bureau des péages, il a tout lâché, hein. Et il a suivi Jésus. Puis il y en a d'autres, hein, qui ont fait naturellement, eh bien, cette expérience. Viens et suis-moi. Et c'est là où je voudrais marquer quand même notre réflexion. Lorsque il entendit ces paroles, il devint tout triste. Pour la plupart d'entre nous, lorsque nous avons entendu le message de Jésus et l'Évangile, nous sommes devenus tout joyeux. Hein? Ça va? Ouais. On est devenu joyeux. C'est vrai? Hein? Parce que c'était une nouvelle qui, certainement, dans les mêmes caractères que la demande de ce garçon, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle, c'est qu'il y a quelque chose dans la réponse qui nous a été donnée qui nous a réjouis. On n'était peut-être pas très riche, mais en tous les cas, on avait trouvé le véritable trésor, ce qu'on peut appeler la perle de grand prix, comme dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Et lui, c'était le contraire. Pourtant, il venait avec un enthousiasme, il venait avec tout feu, tout flamme, et voilà qu'il est cassé. C'est pas Jésus qui l'a cassé, c'est lui qui s'est cassé tout seul. Qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Qu'est-ce que nous attendons en venant vers Jésus? Qu'est-ce que nous espérons qu'il nous dise et qu'il nous demande, voire nous demander? Qu'est-ce que nous espérons? Tout dépend. Vous savez, dans l'histoire du christianisme à travers tous les temps, il y a bien des gens qui ont fait du christianisme, eh bien, certainement une méthode, une recette, quelque chose qui pouvait les promotionner. Ça se fait encore, hein. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se déclarent chrétiens, pas chez nous, hein, mais dans des pays quelquefois du tiers-monde. Faire partie finalement d'une communauté chrétienne ou d'une société chrétienne, ça élève, hein. Ah oui. Ben justement, ils n'ont rien compris, parce que c'est pas une élévation, c'est plutôt un abaissement, le christianisme. Et nous voyons que cet homme, eh bien, il est parti avec une grande tristesse au fond de son cœur, tout triste, car il était très riche. Et voyant, il nous est dit, Jésus voyant qu'il était devenu tout riche, alors il a dit cette parole, mais qu'il est difficile à des riches, alors d'entrer dans le royaume de Dieu. Il y a richesse et richesse. Moi, je suis sûr qu'il y a des riches qui accueillent le message de Jésus avec une grande joie et qui, quelque part, font confiance à Dieu. Et puis, il y en a d'autres que, comme lui, ils ne peuvent pas lâcher. C'est pas possible. J'aimerais étayer un petit peu maintenant à travers un très, très beau poème. C'est mon préféré de tous. Alors, je vais vous le relire et puis on va donner une petite relation entre cet appel de Dieu. J'ai étendu mes mains tous les jours et vous n'avez pas écouté. J'ai parlé, j'ai appelé, etc. Et puis, cette histoire de jeune homme riche, c'est un poème qui a été écrit par un homme en Angleterre, je suppose, au 19e siècle. Et je le garde toujours, ce poème, dans ma Bible. Il est toujours en première page. Et je voudrais le partager avec vous. Vous l'avez déjà peut-être entendu en substance, quelques phrases. Alors, je vais vous le lire parce que c'est vraiment le grand dilemme qu'il y a dans le cœur des hommes. C'est l'amour de Dieu. Nous pourrions dire que le fondement, c'est l'amour de Dieu. Dieu aime les hommes. Et il les aime pour les sauver. Il les aime pour les bénir. Il les aime pour qu'ils soient délivrés de leurs chaînes, qu'ils soient délivrés de leurs possessions, qu'ils soient, eh bien, libres dans leur cœur pour pouvoir avoir cette véritable bénédiction. Et c'est Dieu qui parle à un homme. Il parle à une femme. Il parle à ce jeune homme riche, là, dans la parabole. Il parle au peuple d'Israël. Peut-être peut-il nous parler cet après-midi à chacun d'entre nous. Et vous savez ce qu'il dit, Dieu? C'est dans le poème, hein. Il dit, tout ce que je t'ai ôté, tout ce que je t'ai pris, je ne te l'ai pas pris, je ne te l'ai pas ôté pour te nuire. Oui. Je vous ai parlé tout à l'heure que quand on se convertit, il y a toujours un dépouillement d'une manière ou d'une autre. Comme ce qui était proposé à ce garçon, viens et suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel. Il y a toujours un moment ou un autre de notre vie, de notre conversion, au cœur même de notre conversion, des choses que nous allons obtenir. De nouveaux trésors, un trésor dans le ciel, le pardon de Dieu, la joie et la paix à laquelle nous soupirons depuis pas tellement d'années, même voir une bénédiction matérielle, mais il y aura toujours des choses qu'il va falloir laisser. Ça, c'est clair. Peut-être à travers des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, et donc qui tiennent notre cœur aussi, vous comprenez? des choses qui sont devenues tellement importantes, peut-être sur le plan moral, sur le plan affectif, sur le plan de nos habitudes, sur le plan de certaines choses qui, nous marginalisent et qui font que ben, nous ne sommes plus des hommes libres, mais nous devenons des esclaves. Pour les uns, ça ira de choses que nous possédons qui sont très raffinées, mais qui ne sont pas bonnes pour autant, jusqu'à des grossièretés, telles que l'alcool, la drogue, etc., etc. Et Dieu nous dit, si tu quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Et Dieu nous dit dans ce poème, tout ce que je t'ai ôté, parce qu'à un moment donné, ben c'est Dieu qui met la main sur ça. Et il met la main sur cela parce qu'il sait que c'est un poison, c'est un danger, et ça sera quelque chose qui va nous détruire et même nous faire perdre la vie. Tout ce que je t'ai ôté, je te l'ai pris. Et pour nous ajouter, et pour nous dire que les intentions de Dieu ne sont pas mauvaises, mais elles sont salutaires, je ne te n'ai pas pris tout ça pour te nuire. Certains d'entre nous, nous nous en souvenons, moi je sais que quand je me suis converti au cours d'une déception sentimentale. Voilà, il fallait que je passe par là. Et il a fallu que je dise et que j'accepte de dire « c'est fini ». C'était terminé. Et je peux vous dire que quand on a 18 ans, on est vraiment rêveur. Enfin, moi, je l'étais, et puis assez... voilà. Mais il a fallu faire le sacrifice. Et Dieu s'y est repris à plusieurs fois. À travers des situations tout à fait personnelles, naturellement. Et c'est vrai que je l'ai vécu de cette manière comme si Dieu me l'avait volé. Il me l'avait donné parce que c'est à travers ce qu'il m'avait donné que j'ai entendu l'Évangile. Que j'ai reçu le message de l'Évangile. Donc, ce qu'il m'avait donné, c'était pour un temps, et moi, je croyais que c'était pour tout le temps. Mais ça a été le chemin qui m'a conduit. Et au moment où ça commençait à fonctionner, terminé, c'est fini, c'est terminé. On passe à autre chose. Vous savez ? On passe à autre chose. Et j'ai compris avec le temps que ce qui m'avait été donné, ce que Dieu m'avait ôté, ce n'était pas pour me nuire, mais c'était pour me sauver. J'avais perdu d'un côté, mais j'avais trouvé d'un autre. J'avais trouvé le Seigneur. Le choix, trésor sur la terre, trésor dans le ciel. Et dans ce poème, il est dit, tout ce que je t'ai ôté, je te l'ai pris, non pour te nuire, mais écoutez bien la suite, mais seulement pour que tu puisses venir le chercher dans mes bras. Ouh, Seigneur. Pour que tu puisses venir le chercher dans mes bras. Mon besoin immense, et ça peut être un besoin affectif, ça peut être un besoin sentimental, ça peut être un besoin de santé. Oui, parce que le Seigneur, quelquefois, peut permettre que, à travers notre santé qui décline et qui nous est ôtée, quelquefois nous disons, mais Seigneur, tu m'avais donné la santé, je ne l'ai plus. Alors maintenant, hein, plus question, on ne se parle plus. Voilà. Et quelquefois, eh bien, c'est dans cette manœuvre-là, dans ce courant-là que le Seigneur nous attend, pour que nous revenions à lui. Mais pour revenir à lui, il faut pas lui en vouloir. Faut bien comprendre le sens des choses. Faut bien comprendre la direction de notre vie. Et si nous le lui demandons, nous n'allons peut-être pas comprendre tout de suite, mais nous allons le comprendre après. Ça s'appelle la foi, tout simplement. Alors si je t'ai pris tout ça, eh bien, il faut que tu saches que ce que je t'ai pris, je le tiens, je l'ai. Je le garde pour que tu viennes le chercher dans mes bras. L'image de le chercher dans les bras de Dieu, il y a une connotation d'amour, vous comprenez? Une pensée d'amour. Alors après, dans ce poème, il y a tout ce que nous imaginons, qui peut être à la fois doré ou quelquefois très sombre, voire même une révolte, en disant « ben oui Seigneur, hein, c'est terrible, hein, c'est terrible ». Et la suite c'est celle-ci, « Tout ce que tes périls méprisent, s'imagine avoir perdu, je l'ai mis de côté pour toi à la maison ». C'est la suite de non, mais seulement pour que tu puisses venir le chercher dans mes bras. Et c'est là, justement, lorsque nous souffrons de quelque chose qui nous est retiré, quelque chose qui nous est arraché, quelque chose qui ne nous est peut-être pas encore donné. Alors, c'est appelé dans ce poème les puériles méprises. Qu'est-ce que c'est qu'une méprise? C'est une erreur. C'est une chose que l'on pense et qui n'est pas. On se trompe sur le compte de Dieu. On se tombe sur le compte des uns et des autres. Et on s'imagine et on brode que finalement ceci et cela, eh bien, parce que c'est notre vérité à nous, alors que ce n'est pas notre vérité à nous, c'est ce que nous imaginons être la vérité. Ce que nous imaginons parfois lorsque nous sommes en bisbille avec Dieu, que c'est un jugement, alors que ce n'est pas un jugement. que c'est un châtiment, alors que ce n'est pas un châtiment. C'est pourquoi, eh bien, tout ce que tes périls méprisent s'imaginent avoir perdu. Vous savez, quand on a perdu quelque chose, il nous manque. Ça nous manque, hein. Quelquefois, on ne sait pas ce qu'on a perdu. Alors, voilà, moi, ça m'arrive souvent avec mes clés, mes lunettes. Quand vous me voyez comme ça, c'est que vous dites, j'ai pas, hein, c'est pas une démangeaison, hein, mais c'est parce que ça me manque. Ça me manque pour rentrer chez moi et ça me manque pour lire aussi, quelquefois, enfin, pour mes besoins normaux pour pouvoir voir clair. Alors, ceci dit, où Dieu nous dit, mais tu t'imagines toutes sortes de choses qui ne sont pas, mais sache que ton imagination, je voudrais la canaliser pour que tu ne te trompes pas sur toi-même, que tu ne te trompes pas sur le chemin que tu as déjà parcouru. Et Dieu nous confirme, il nous dit, mais le chemin que tu viens déjà de parcourir, mais il est bon. Tu as commencé à me faire confiance, continue à me faire confiance. Tu n'es pas encore au bout, alors que nous pensons que quelquefois, eh bien, il n'y a plus rien du tout. Mais non, faut continuer. Alors, tu t'imagines l'avoir perdu et que ce que tu as perdu, sans ça, tu ne peux pas vivre. Alors, il y a des choses, on va apprendre avec Dieu, qu'il va falloir peut-être apprendre à vivre sans. Eh oui, c'est pas facile, hein. Mais, vous savez, Dieu est bon, c'est jamais totalement sans. C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous attend d'autre. Ouais. Alors, je l'ai mis, dit Dieu, je l'ai mis de côté pour toi à la maison. Est-ce que notre Dieu, notre Père, n'a pas une maison pour nous? Est-ce que cette maison dont il est parlé, c'est cette intimité, cette présence, ce bonheur que nous avons trouvé en lui? Je l'ai mis pour toi à la maison. Je ne l'ai pas caché ailleurs. Je ne l'ai pas caché dans un endroit inaccessible, un endroit inconnu. Si tu reviens à la maison, moi je voudrais que cet après-midi, la salle soit pleine avec tous nos enfants de chrétiens qui sont partis, vous comprenez? Tous ceux qui n'ont pas donné suite, tous ceux qui sont venus, qui sont partis et qui sont là à disséminer un petit peu à chercher bonheur et fortune dans le monde. Moi, j'aimerais qu'ils soient là cet après-midi parce que c'est un message aussi. Et ça peut-être servir à d'autres, hein, on ne sait pas. Hein. Voilà. Alors, il est pour toi ce que tu crois que tu as perdu. Mais moi, je l'ai mis de côté et il y a même ton nom. Tu sais, je l'ai mis dans un endroit et j'ai mis une étiquette. Pour toi, pour Pierre, pour Paul, pour Jeanne, pour, je ne sais pas, voilà, tous les noms féminins et masculins. Il est là, il t'attend. Est-ce que tu veux pas rentrer à la maison? Est-ce que tu veux pas revenir vers moi? Parce que, je n'oublie pas, tu es mon enfant, je suis ton Père Céleste, et c'est ta maison, hein, tu ne l'oublies pas. Toutes les autres maisons que tu peux avoir autour de toi, ce sont pas tes maisons. Ce sont des maisons d'emprunt. C'est pas ta véritable maison. Dans ce poème, il est dit, mais lève-toi, saisis ma main, et viens. On a besoin de la main de Dieu qui va nous donner la force de croire en sa grâce. Combien il y a de mains tendues dans l'histoire de Jésus, ou voire même l'histoire des apôtres, où il nous est dit que pour Bartiré, ou pour l'homme qui était malade depuis 38 ans, il nous est dit qu'il lui saisit la main. À la porte du temple, Pierre et Jean ont saisi la main, aussi du boiteux, quand Dieu tend la main. C'est une main tendue, hein, le message de l'Évangile cet après-midi. Eh oui, c'est peut-être pas physique, mais c'est quand même une main tendue. Alors, lève-toi, fais l'effort, comme le fils prodigue. Lève-toi et viens. Ah, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si vous saviez combien vous pourriez être dans un meilleur état si vous veniez à moi. Si vous vous leviez de votre torpeur, de votre lassitude, de vos gémissements. Et qu'à ce moment-là, eh bien, vous saisissiez ma main, vous verriez ce qu'est le véritable repos dans la maison du Père, dans ma maison, dans votre maison. Et près de toi, continue le poème, ce pas fait halte, la pénombre où je suis serait-elle après tout? Et ça, c'est l'homme qui est interpellé, qui parle. Et près de toi, ce pas qui fait halte, la pénombre où je suis serait-elle après tout l'ombre de sa main tendue pour une caresse? Ah, c'est poétique, hein. Ah oui. Vous savez que Dieu vient d'une manière tellement discrète, silencieuse, d'une manière tellement inédite et étonnante que quelquefois nous ne savons pas qu'il est beaucoup plus près que nous l'imaginons. Le Seigneur est là cet après-midi. Ouais. Il est là cet après-midi. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour passer près de nous. Il est là et il nous amène tranquillement dans sa maison. Et si près de moi, ce pas invisible, ce pas de Dieu, il fait halte, il s'arrête, il connaît ma misère, il connaît ma souffrance, il est à l'écoute de tout cela. Et même dans la pénombre, parce que vous savez, quelquefois, hein, dans nos aventures de vie, dans nos infortunes, c'est pas seulement la pénombre, hein, c'est la vallée de l'ombre de la mort, hein, dans certains cas. Hein. Pfiou, on n'y voit pas très clair, on n'y voit plus rien du tout d'ailleurs, il faut le dire. Alors, ce pas, la pénombre, serait-elle après nous, après tout, l'ombre de sa main? Il y a l'ombre, il y a la main derrière, mais la main n'est pas loin. Et moi, je voudrais vous encourager, c'est que la main de Dieu, elle n'est pas loin de chacun d'entre nous. Vous ne voyez que l'ombre. C'est comme dans la misère et les malheurs de David, la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort, c'est l'ombre. Et là, il s'agit tout simplement de sa main. Parce que derrière, il y a vraiment la main de Dieu. Oui. Elle est tendue, non pas pour une agressivité ou une violence, mais pour une caresse. Combien nous avons besoin dans nos peines, dans nos immenses chagrins que nous pouvons connaître, dans les séparations, dans les choses que nous devons délaisser, les choses où Dieu nous demande de nous séparer, où il y a des larmes sur notre visage, combien, eh bien, cela est accompagné souvent d'une caresse en disant « mais ne crains pas, fais confiance, n'aie pas peur ». Et vous croyez que Dieu sait quand nous perdons quelque chose ou quelqu'un, quand il y a là un déchirement, quand il y a quelque chose qui doit être abandonné, on pleure. On y regarde à deux fois, nous les hommes, parce que je dois abandonner ceci, je dois délaisser cela, mais Seigneur, si je n'ai plus ça, je vais plus vivre. On a tous ce sentiment à un moment ou à un autre. Hein. Ça fait mal, hein. C'est comme quelque chose qui... Parce que vous savez, ces choses qui sont pas toujours très bonnes ou demi-bonnes, ou franchement mauvaises, ça fait partie à un moment de notre personnalité. Nous pensons que sans ça, on ne pourra plus vivre. Ouais. Sans l'être que nous aimons, nous ne pouvons plus vivre. Et ça, c'est une réalité aussi. On ne peut plus vivre parce qu'elle n'est plus là ou il n'est plus là. Ben oui, mais bon, il y a des fois, c'est comme ça et puis c'est tout. Mais il y a toujours le pas qui s'approche. Il y a toujours cette pénombre, certes, mais il y a toujours aussi cette main qui caresse. Dieu n'est pas venu pour détruire les hommes et qui plus est ses enfants. Il est venu pour nous caresser, je prends le terme du poème, naturellement. Et dans nos tristesses les plus affreuses, dans nos nuits nos plus noires, combien de fois nous avons fait cette expérience où, alors qu'il n'y a que pleurs et chagrins, et d'un seul coup, un chant monte de mon cœur, on se demande d'où il vient celui-là. Ouais. Un chant, un petit cantique qui arrive comme ça. Et on se dit, mais où je suis? Il y a deux personnalités en moi, il y a la tristesse, l'effondrement, quelque chose de terrible que je vis, puis d'un seul coup, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui est en vous, qui vient. Et qu'est-ce que ça fait du bien? On se prend quelquefois à dire, mais c'est fou une histoire pareille. Comment se fait-il que je chante alors que je devrais pleurer? L'ombre de sa main qui passe. Et Dieu reprend. À toi, la créature la plus aimée. On ne pourra jamais imaginer combien Dieu aime les hommes. C'est dit comme ça, hein. Ça n'a peut-être pas le pathétique que ça devrait avoir. Enfin, un pathétique spirituel, je voudrais dire. Toute la mesure de la grandeur, de la longueur, de la largeur, de la profondeur de l'amour de Dieu. Ouais. Alors, à toi la plus aimée, mais la plus aveugle, la plus faible des créatures, c'est bien l'homme. Hein. Oui, il y a l'amour, il y a notre aveuglement, et il y a notre faiblesse. Et c'est aux hommes que Dieu dit ça. Et la fin, c'est celle-ci. Je suis celui avec un grand C. Je suis celui que tu cherches. Parce que quelquefois, eh bien, on cherche, mais sans savoir qu'on a déjà trouvé Dieu, ou que surtout Dieu nous a déjà trouvé. C'est Jacob, quand il est à Bethel, qu'il est en train de dormir sur un oreiller très confortable, c'est une pierre. Et que là, il est réveillé dans la nuit, et qu'il a une terreur parce que Dieu lui apparaît. C'est l'histoire de l'échelle, vous comprenez? Dans Genèse. Et à un moment donné, il va être pris dans sa frayeur et dans sa terreur en disant, mais je ne savais pas que Dieu était présent dans ce lieu. C'est comme ça qu'on l'a appelé Bethel. Maison de Dieu. Je ne savais pas que Dieu était si près. Eh bien, imaginez-vous que Dieu est beaucoup plus près. Dans nos souffrances, dans nos misères, lorsqu'il y a une séparation, lorsqu'il nous demande de lâcher quelque chose, il est beaucoup plus près. On pense que Dieu nous abandonne, mais à ce moment-là, il n'a jamais été aussi près de nous. Alors, à celui qui cherche, toi qui me cherches, en me repoussant, Et c'est la clé, c'est la chute du poème. Parce qu'en me repoussant, c'est l'amour que loin de toi tu repousses. Vous savez, si on n'est pas consentant à être aimé par Dieu, il n'arrivera jamais rien. Est-ce que vous voulez croire que Dieu nous aime? C'est ça le message cet après-midi. Ouais. Car loin de toi, tu repousses l'amour que je te propose. On était sauvés comment? Par la foi. Et une grâce, c'est tout simplement la manifestation de l'amour de Dieu, la grâce. Tout simplement. Si on revient à notre ami là de passage, quand Jésus lui dit « mais il te manque encore une chose », eh bien la chose qui lui manquait et qui faisait véritablement le drame de sa vie, le problème, son choix terrible et déchirant, c'est qu'il avait plus d'amour pour ses richesses, sa réputation, que d'intérêt pour l'amour de son Dieu. C'est ça la question. Pour Israël, c'est la même chose. J'ai tendu mes mains, il y a quelque chose de fort et de pathétique, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées parce qu'il s'imagine chercher et courir après des choses qui ne sont que des chimères. Alors je l'ai appelé ce peuple d'Israël et vous ne m'avez pas répondu, j'ai parlé et vous n'avez pas écouté. Je relis le poème une dernière fois si vous voulez. Tout ce que je t'ai ôté, je l'ai pris non pour te nuire, mais seulement pour que tu puisses venir le chercher dans mes bras. Tout ce que tes périls, mépris s'imaginent avoir perdu, je l'ai mis de côté pour toi à la maison. Lève-toi, saisis ma main et viens. Et près de moi, ce pas qui fait halte, la pénombre où je suis serait-elle après tout l'ombre de sa main tendue pour une caresse? À toi, la plus aimée, la plus aveugle, la plus faible des créatures, je suis celui que tu cherches. En me repoussant, c'est l'amour que loin de toi, tu repousses. Eh bien, approchez-vous du Seigneur, il est beaucoup plus près que nous le pensons. Et si au milieu de nous, il y a quelqu'un, et je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui pleure, un choix à faire, un déchirement, à renoncer, à porter sa croix, ce soit sur le domaine affectif, le domaine moral, peut-être sur le plan des choses de la vie, une séparation ou quelque chose d'autre, eh bien, sachez que le Seigneur vient vers nous et que tout cela, eh bien, c'est pour que vraiment nous lui donnions la première place et nous allons être attirés par son amour. Dieu continue à nous aimer pour nous sauver et pour l'éternité. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Eh bien, la réponse, elle est là, c'est l'amour de Dieu. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que ta parole, elle se décline à travers des enseignements, Seigneur. Elle se décline à travers des paraboles, à travers des allégories, à travers des poèmes. Combien y a-t-il dans ce livre merveilleux de la Bible, des livres qui sont dédiés à la poésie, les psaumes, Job, Cantique des Cantiques, les Proverbes, l'Ecclésiaste, et puis, à travers d'autres pages même, historiques de la Bible, il y a aussi des beaux cantiques et des beaux poèmes. Seigneur, nous voulons croire qu'en effet, Seigneur, tu as donné la capacité aux hommes, eh bien, Seigneur, d'écrire ou de lire, ou de dire des choses, en effet, Seigneur, qui touchent vraiment le cœur. Et bien qu'il en soit ainsi, Seigneur, nous voulons croire que celui qui est venu sur la terre, il s'appelle assurément pour tout le monde, eh bien Jésus. Et quand il est venu, il a été nommé Emmanuel. Non pas le Dieu contre nous, mais le Dieu avec nous. Eh bien maintenant, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Délivre-moi de mes méprises. Délivre-moi de mon imagination, Seigneur, où je me méprends, Seigneur, sur tes intentions, alors que je sais que il y a une maison qui m'appartient, qu'il y a la tendresse d'un père, qu'il y a l'amour d'un Dieu qui veut véritablement m'apporter guérison, réparation, et qui veut me donner, en effet, Seigneur, de pouvoir faire le choix de ce qui est appelé le véritable trésor dans les cieux. Oui, Seigneur, les hommes pleurent sur la terre, mais nous savons, Seigneur, que déjà, même ici-bas, il y a une consolation. parce que nous savons que ce Dieu que nous ne voyons pas, il est réel, il est présent, il est près de moi, mais nous savons qu'un jour, eh bien, nous le verrons face à face. Et nous te bénissons et nous te remercions. Je te prie particulièrement pour mes frères et mes sœurs cet après-midi qui entendent ce message et qui souffrent dans leur cœur, qui souffrent de quelque chose dans leur cœur, qui souffrent peut-être d'erreurs qu'ils ont commises, de faillites, de choix, Seigneur, qui sont mauvais. Mais Seigneur, tu n'es pas venu pour nous condamner dans nos choix, parce que nous l'avons fait peut-être en effet par témérité, nous l'avons fait parce que nous nous sommes précipités. Il y a toujours des raisons, Seigneur. Mais en effet, même à travers ces erreurs et ces choix, tu veux que nous revenions à toi, que nous te demandions pardon, que nous reprenions le chemin. Mais jamais tu ne nous rejettes. Parce que, Seigneur, en effet, tous les hommes font des erreurs, tous les hommes peuvent prendre d'une mauvaise route. Tous les hommes peuvent avoir un cœur tellement rempli de choses qui sont contraires à toi. Eh bien, si nous venons vers toi, même dans tout cela, tu peux changer le mal en bien. Et Seigneur, c'est ce qui nous réjouit. Tu peux changer nos nuits en jour. Tu peux transformer, Seigneur, nos obscurités en lumière. C'est ça l'évangile. Et nous te bénissons. Et ne pas repartir tout triste. Parce que, Seigneur, ça nous semble impossible. Avec Dieu, c'est possible. Tu nous le dis. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Nous l'avons lu. Alors, Seigneur, visite mes frères et mes sœurs. Fais-leur du bien. Et qu'ils puissent, s'ils sont venus peut-être dans la fatigue, et s'ils sont venus dans un épuisement, le découragement, démoralisé, qu'ils puissent repartir ce soir, eh bien, en comprenant que ce Dieu les attend à la maison s'ils veulent se lever, s'ils veulent te donner la main. Alors à ce moment-là, tu vas leur donner tout ce dont ils ont besoin et ils comprendront par où ils sont passés, que c'était le chemin quelque part, un chemin difficile, c'est vrai, mais un chemin qui peut devenir radieux et joyeux. Et nous te bénissons et nous te remercions parce que tu marches sur ce chemin avec nous. Merci Seigneur. Alors je ne veux pas repousser ton amour. Au contraire, je veux te dire Seigneur, j'ai tellement besoin d'être aimé, aimé encore davantage. Et puis moi, apprends-moi à t'aimer encore toujours, de plus en plus. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen, amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.